Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle.
C'est non.
Qui vient de me voir, c'est une merde, Noé.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Vive le cinéma!
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, enfin, après 11 jours de festival et 12 émissions en comptant celle-ci, le Festival de Cannes 2023, 76e édition du festival, a enfin pris fin. On sort de la cérémonie de clôture. Le palmarès est enfin connu de tous. Et au moment où vous écoutez cet épisode, vous êtes le lendemain du palmarès, donc vous avez forcément vu passer les tweets. Nous sommes donc tous réunis pour décrypter cette cérémonie de clôture. Il faut quand même que je précise que c'est un peu l'hécatombe dans l'équipe de Réaliser sans trucage parce que Arthur, qui était déjà pas là hier, n'est toujours pas là aujourd'hui. Et en plus, Simon et Nicolas ont dû eux aussi rentrer en région parisienne avant la cérémonie de clôture. Je suis toujours néanmoins accompagné de Sophie Grèche. Bonjour Sophie.
Salut, j'ai l'impression qu'en fait ce podcast c'est un slasher, on sait jamais qui va partir. Si ça se trouve, d'ici la fin de l'émission, c'est soit toi, soit moi, donc je vais vite genre faire attention à mes arrières.
Hein. Ouais, je pense que tu fais bien, ouais. Mais en tout cas, comme on avait trois micros et qu'on avait personne à mettre derrière, on a invité des gens et ils vont se présenter maintenant. On va commencer par toi, Nathanaël. Salut.
Salut, moi c'est Nathanaël Ventura, journaliste cinéma pour Sortir à Paris. Je fais pas partie ni de l'équipe A, ni de l'équipe B, mais bon, il y a une équipe C qui s'est lancée un peu en catastrophe et je suis ravi d'être là. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité.
On est ravis que tu sois là.
On est ravis de t'accueillir. En face de moi, il y a Zara. Bonjour Zara.
Coucou, je suis le quota belge de cette émission aujourd'hui et je suis très heureuse d'être là. Je ne suis pas journaliste, mais je vends à l'international des films et je suis heureuse d'être là.
Bah d'ailleurs Zara, je pense qu'à un moment on reparlera un petit peu de la dimension business
industrie.
Du Festival de Cannes, yes. Parce que c'est quelque chose que le grand public ignore un peu. Et enfin il y a Sergent Pepper sur Sens Critique, de son vrai nom Eric Schwald. Bonjour Eric.
Bonjour à tous, Eric Schwald, donc Sergent Pepper, effectivement je travaille aussi sur les ciné-clubs, sur YouTube et... Je me suis lancé dans le podcast aussi, d'ailleurs, depuis peu de temps. Ça s'appelle Post-Projection et je suis ravi de vous retrouver.
Ah, la concurrence !
Attention, tremblez.
Bah, en tout cas, on est ravis de la recueillir, la concurrence. Et je pense qu'on va passer tout de suite au débrief de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Donc, on parlera un petit peu de ce qu'il y a peut-être à retenir en termes de gossip, notamment une très jolie bourde de Anaïs de Boustier lorsqu'elle a remis la caméra d'or. C'était plutôt marrant. Bon, on va commencer, en fait, tout simplement par le bas du palmarès et puis on va remonter vers la Palme d'Or, hein, puisque c'est l'ordre d'attribution des prix. On commence par la section du court-métrage. Donc déjà, il y a une mention spéciale du court-métrage pour Phare de Gunnur Martinsdottir Schlüter et donc une palme d'or du court-métrage pour 27 de Flora Anna Bouda. Zara, est-ce que tu veux nous dire un truc sur ce film-là et surtout sur sa réalisatrice?
Bah en fait, je suis super heureuse. Donc, c'est une réalisatrice hongroise qui est basée à Paris et qui... Moi, j'ai été un peu surprise lors de la cérémonie parce qu'il y a eu une mention juste avant d'une autre réalisatrice. Et puis donc la réalisatrice Flora se lève et j'ai cru qu'il n'y allait pas avoir de discours pour les cours. Parce qu'on ne sait jamais en fait dans un monde comme le nôtre où les Oscars éclipsent les cours, où les cours, c'est un peu l'enfant pauvre, ouais, du long métrage. Maintenant j'étais trop heureuse qu'elle arrive jusqu'à la scène. Et c'est surtout, j'ai été très très émue qu'elle mentionne et qu'elle apporte son soutien au festival de court métrage de Clermont-Ferrand, dont les subsides ont été réduits de 50%. Bah, la région, je vais essayer de pas faire de politique, mais en fait...
Non, mais on peut le rappeler, parce que c'est un fait, hein, le président, ouais, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, si je
Laurent
ne dis
Wauquiez.
Pas de bêtises, Laurent Wauquiez, a décidé de sucrer 110 000 euros de subventions au Festival de Clermont-Ferrand, ce qui correspond effectivement à environ la moitié des subventions accordées au festival. Et le festival s'est fendu d'une lettre ouverte pour répondre à ça et pour expliquer que ça le mettait littéralement en danger de mort. Et c'est l'un des plus gros festivals de cinéma du monde. Donc
de court-métrage, tout à fait. Et en fait, il y a une pétition, allez la signer. Il faut soutenir le Festival de Clermont-Ferrand, il faut soutenir les cinéastes émergents, il faut soutenir le format court, qui n'est pas juste une carte de visite, mais qui est un format en soi. Et en fait, ce qui est beau avec le Festival de Clermont-Ferrand, c'est sûrement le festival le plus filmmaker-friendly du monde. C'est un endroit où le rapport, vraiment à côté de Cannes, franchement, il n'y a aucun stress pour s'habiller. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, si tu envoies un film à Clermont-Ferrand, même si tu n'es pas pris, tu es accrédité. Et je pense que vraiment, il y a une leçon, peut-être, que l'industrie devrait... on devrait peut-être plus imiter en fait les festivals de courts-métrages, notamment Clermont-Ferrand. Voilà.
Bah merci Zara pour cette petite intervention. Donc on va remonter, on va commencer à attaquer la section des longs-métrages qui est, au grand dam des réalisateurs de courts, la section la plus commentée. Et on va parler de la caméra d'or. L'arbre au papillon d'or du cinéaste Tien Anh Pham. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont vu ce film qui a été présenté en quinzaine des cinéastes? Eh ben moi non plus, et c'est un peu toujours la petite loterie de la caméra d'or, c'est que comme elle récompense tous les premiers films, toutes catégories confondues, donc de la sélection, alors pas la sélection officielle je crois, mais Un certain regard, La quinzaine des cinéastes, La semaine de la critique, donc ça fait quand même un sacré paquet de films à voir. Mais par contre, il y a un prix sur lequel on peut s'arrêter parce qu'il nous a un peu tous surpris, c'est le prix du scénario. Puisque le film donc Monster de Hirokazu Koreeda a été récompensé, et plus spécifiquement son scénariste, Yuji Sakamoto, qui n'était malheureusement pas présent à la cérémonie, et c'est Koreeda qui a récupéré le prix à sa place. Koreeda, c'est pas la première fois qu'il passe par le Festival de Cannes. Il avait notamment récupéré une palme d'or pour une histoire de famille. C'est ça, hein. Je sais jamais si c'est une histoire de famille. Mais en tout cas, il avait récupéré déjà une palme d'or. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être parler de Monster et de son scénario? Parce que ça... en tout cas, du côté de la presse, l'écriture de Monster a été pas mal commentée, Nathanaël.
Oui, c'est un film que j'ai découvert ce matin en rattrapage, donc c'est encore très frais dans ma tête. C'est un film, c'est Simon qui disait ça, je crois, dans l'une des premières émissions, qui a un peu une place un peu bâtarde du premier film en compétition à passer. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment mémorable. Moi, j'ai été vraiment bluffé par ce scénario. Je voyais pas un autre film l'avoir, peut-être l'enlèvement de Bellocchio, mais le film de Koreeda a vraiment une écriture précise, ciselée, très très subtile. On l'a beaucoup comparé à Rashomon pour sa composition en trois actes qui reprennent un même événement vu par plusieurs points de vue. Mais là où il se différencie de Rashomon et d'autres films qui utilisent ce procédé, c'est que l'histoire va toujours un peu plus loin. À chaque fois, on découvre des nouveaux détails, des choses très subtiles que l'on n'attendait pas du tout, qu'on ne pouvait pas du tout imaginer dans les premiers points de vue. C'est d'abord, on a déjà parlé du film De long en large en travers, donc je ne vais peut-être pas refaire un point sur le pitch, mais le premier segment s'intéresse à la mère, ensuite au professeur et enfin aux deux enfants qui sont vraiment les stars du film. Et c'est vraiment un scénario bluffant. On en a parlé un peu en micro. Le film a obtenu la Queer Palm, qui est un choix, il est vrai, évident, mais qui malheureusement peut-être en dévoile un peu trop sur la teneur du film, qui impressionne de bout en bout et qui bénéficie d'une écriture vraiment. Vraiment superbe. Je sais pas quoi dire de plus.
Et toi, Eric?
Ben, justement, moi, je trouve que c'est un film qui existe beaucoup par son écriture et c'est ce qui m'a un peu dérangé. Je trouve que c'est une copie vraiment brillante, très virtuose et il y a plusieurs segments dans le film et moi, le segment qui m'a le plus intéressé, c'est le segment final dans lequel l'écriture, elle passe au second plan. Et on retrouve Koreeda qui s'est filmé des enfants, qui s'est filmé des émotions, et c'est là qu'il exprime la pleine mesure de son cinéma. Et j'ai été un peu dérangé, j'ai clairement trouvé qu'il y avait un segment en trop, que ce côté justement Rashomon faisait un peu la copie parfaite, où on allait dire « Ah mais en fait, il fallait comprendre ça, mais finalement si, etc. » Et que tout le segment du milieu était assez gratuit et limite formaliste du point de vue de l'écriture, donc je trouve que c'est un petit peu trop évident. Et moi, j'ai un peu des réserves sur ce scénario-là.
Zara, t'étais à la Queer Palm, t'as assisté à la remise de prix.
Oui, avec Ueda.
tu peux en dire un mot peut-être.
Ouais, tout ouais. à fait. Ben, en fait, moi j'ai été extrêmement émue par le discours de la présidente John Cameron Mitchell, qui en fait a expliqué que pour les personnes queer, les métaphores, c'est quelque chose qu'elles comprennent en termes de narrative, parce qu'elles savent ce que c'est d'être toujours à la surface. Elles savent ce que c'est en fait d'être dans le rapport de transformation. Et que d'ailleurs, en fait, le cinéma fantastique, le cinéma de genre porte souvent aussi des histoires de freaks, des histoires de monstres comme Coréda, d'histoires en fait de personnes à la marge. Et d'ailleurs, ben, c'est Juliette Ducournau, quand elle reçoit sa palme pour Titane, qui dit merci d'avoir laissé rentrer les monstres. Et c'est peut-être en fait le petit début des graines en fait qui sont semées sur le chemin. Et c'est fort en fait, c'est fort de parler justement à quel point raconter des histoires, comment la fiction peut aider des tas de personnes en fait au fleurissement de soi, quoi.
Mais alors, on va donc passer à la Palme d'Or. Ah non, pardon, excusez-moi, on va passer au prix de la mise en scène. C'est une analyse de Moustier. Pour expliquer la blague pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie, Anaïs de Moustier était donc la présidente du jury Caméra d'Or. Et au moment d'annoncer la Caméra d'Or, elle a annoncé la Palme d'Or avant de se reprendre, évidemment, tout de suite après. Mais ça a fait un joli moment qui est d'ailleurs déjà commenté par nous. Elle a fait une Spike Lee, comme elle l'a dit elle-même.
Mais non, elle n'a pas dit un film. C'est ça qui est différent.
Oui, parce que Spike Lee, il avait dit la Palme d'Or et le film en début de cérémonie.
It's Titan, ok, voilà. I don't care. Can I get back to my hotel, please?
Voilà, ce qui était un peu particulier quand même. Non, on va passer au prix de la mise en scène qui a été attribué. Et on est quand même tous plutôt contents de ce choix autour de la table, même si certains d'entre nous, et notamment moi, le voyaient un peu plus haut placé. Tran Anh Hung, cinéaste franco-vietnamien, a donc reçu le prix de la mise en scène pour La Passion de Dodin Bouffant, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Je vais en parler un petit peu de ce film-là, parce que bon, on en a longuement parlé dans l'émission, il a été aussi très commenté dans la presse, et ça a été un coup de cœur pour beaucoup, beaucoup de journalistes et de festivaliers. Mais il est vrai que ce qui impressionne le plus dans La Passion de Dodin Bouffant, c'est sa mise en scène, son parti pris de mise en scène, d'essayer de transmettre par les mouvements de caméra, par les choix de cadre, par l'éclairage, la matière et les transformations des aliments et qu'est-ce qui en fait constitue la magie chimique ou alchimique presque de la cuisine. Sophie, tu voulais dire un truc ?
Oui, bah justement, je voudrais juste, parce que le film à un moment va sortir en salle et je pense qu'il va y avoir certainement une bande-annonce ou des promos et je pense que c'est un film qui à première vue a l'air d'être très classique. Donc je voudrais juste revenir sur le fait que c'est un film faussement classique. C'est pas parce qu'il s'ancre dans cette catégorie de film en costume avec une lumière qui est très imprégnée de peinture classique ou quoi que ce soit qu'il est classique dans sa mise en scène. Et je trouve que justement il a su donner une vraie fougue et surtout c'est comme le rapport des personnages à la cuisine, il faut avoir une vraie intuition et un vrai lâcher prise pour pouvoir profiter complètement soit des saveurs de la cuisine en elle-même mais surtout de ce film là il faut savoir genre laisser ouvrir tous ses sens pour complètement rentrer dans ce film là et je trouve qu'au final même si on aurait certainement tous voulu le voir plus haut primé c'est sa mise en scène en effet comme tu l'as dit qui ressort particulièrement.
Eric ?
Ben, moi, c'était dans mon palmarès personnel, c'était la mise en scène à laquelle je voulais vraiment aussi ajouter le travail sur le son et la lumière parce que c'est vraiment un film qui est une synthèse extraordinaire de ce point de vue-là. Et je suis particulièrement heureux qu'il l'ait sur la mise en scène parce que moi, j'ai un petit peu du mal avec les dialogues. Il y a quelque chose d'un peu littéraire qui m'a un peu gêné, mais suite à des discussions extrêmement fertiles avec des collaborateurs et notamment avec Simon et Nicolas, je comprends aussi un peu l'idée justement de mettre en regard cette façon de disserter de ce milieu d'élite avec justement un parti pris et vraiment radical. Hein, où on a des séquences, notamment la séquence d'ouverture qui est absolument incroyable, où on nous montre simplement la confection du repas et la mise en scène transcende complètement ça.
Ouais, Nathanaël, tu voulais rajouter un truc ?
Oui, moi aussi, c'était un vrai coup de cœur, ce film. Pareil, comme Eric, j'avais noté le travail sur le son qui est admirable. Et le point sur lequel je voulais revenir, c'est le parallèle que fait Tran Anh Hung sur le travail de cuisinier et celui de cinéaste. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi en découvrant le film, mais j'ai l'impression que le travail presque d'orfèvrerie du personnage de Benoît Magimel dans le film est un peu métatextuel avec la façon qu'a Tran Anh Hung de filmer la scène. Et en fait, ce que nous dit ce film, c'est que ce sont deux artisanats qui sont très étroitement liés parce que la cuisine est une forme de mise en scène et Tran Anh Yong le cuisine son film en quelque sorte et me passionne moi à titre personnel.
En fait. Moi, la seule déception que j'ai avec la récompense de Tran Anh Yong, c'est que du coup s'envole un rêve, après lequel je courais déjà en 2022, c'est celui de voir enfin Magic Benoît, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler à partir de maintenant, Magic Benoît récompensé par une...
Tu veux le baiser ?
Non. Il faudrait qu'on discute d'abord, mais... C'est une référence à Omar La Fraise.
Ouais, que j'ai
voilà.
pas vu.
C'est un moment où dans une boîte de nuit.
C'est dans la bande-annonce, mais.
Dans une boîte de nuit, il y a Reda Kateb qui est en train de parler avec une espèce de jeune dealer qui lui fait des grandes déclarations en mode t'es mon idole et tout. Et Reda Kateb lui dit juste pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles, est-ce que tu veux me baiser? Et il y a Benoît Magimel derrière qui fait tu veux le baiser, c'est ça? Et vraiment, la réplique est incroyable. Et vraiment, le tempo comique de ce film est assez dingue. Et
petite parenthèse très rapide, puisqu'on parle de Omar La Fraise, j'ai eu la chance de découvrir le film dans la projection officielle de minuit avec l'équipe et voir Benoît Magimel se tordre de rire devant ses propres scènes de lui en train de danser comme un idiot, ça n'a absolument pas de prix. C'est un de mes meilleurs souvenirs de festival.
Mais voilà, mais en tout cas, vous l'aurez compris, mon rêve s'est un petit peu écroulé. Benoît Magimel n'est pas reparti avec le prix d'interprétation masculine.
C'est
alors
bon,
que pourtant...
il a deux Césars, franchement.
Le pire, je l'ai dit à Eric pendant la projection, j'ai dit, ils lui ont pas filé et tu vas voir qu'il va reprendre un César. Ça va être la règle. À chaque fois qu'il le rate à Cannes, il le récupère au César. Quoi.
Écoute,
tu vois,
il était présent trois fois cette année.
Oui,
à Cannes.
C'était une très belle année pour lui déjà.
Voilà,
c'est franchement
personne n'a oublié Pacific Fiction l'an dernier. Non. Je veux dire, ça devient quelqu'un vraiment de qui est dans les murs. Quoi. Donc on peut imaginer qu'un jour ça lui arrivera.
C'est vraiment le Benoît Magimel Cinematic Universe après notre année Denis Podalydès.
Ouais, c'est un peu ça.
Alors, Denis Podalydès, sauf que lui, c'est toujours des daddy issues Denis Podalydès universe, quoi. Là, Benoît Magimel, il fait deux films en costume et un espèce de dealer raté à Alger. Enfin, ça n'a aucun sens.
Il a une carrière vraiment unique, mais celui qui a été récompensé, alors pour le coup, c'est l'acteur principal d'un film que je n'ai pas eu la chance de voir, c'est l'acteur principal de Perfect Days de Wim Wenders, donc Koji Yakusho, acteur japonais très important. Et je dois reconnaître avoir été plutôt touché par la grande classe et la grande dignité de Koji Yakusho, et surtout impressionné par la salve d'applaudissements qu'on a entendu dans la salle presse, parce que je crois que Yakusho est un grand, grand chouchou de la presse. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Eric.
En fait, ce qui était très beau ce soir, quand on voyait justement ce grand homme dans son costard, c'était de faire le parallèle avec l'homme qu'il incarne, à savoir un employé qui nettoie les toilettes publiques dans Tokyo et qui progressivement prend vraiment une ampleur et une humanité incroyable. Et en matière de justement savoir filmer un visage et une émotion, la séquence finale de Perfect Days est vraiment sublime. Et il arrive à faire passer un nombre incroyable de choses dans de longues séquences qui sont souvent muettes. Et c'est vrai que c'est une interprétation qu'on n'oublie pas.
Nathanaël ?
Oui, c'est ça. Ça passe par de tout petits détails. Et c'est pour ça que je trouve que cette Palme d'Or est vraiment... importante, c'est que on a souvent tendance à récompenser les grands gestes, les grandes colères, les grandes envolées lyriques, alors que le jeu de Koji Yakusho se joue tout en finesse dans des très légers détails, un haussement de sourcil, un sourire, et ce mec a un charme fou. C'est clairement le meilleur aspect du film, et donc je suis ravi qu'il ait été primé pour cette catégorie là.
Zara.
Lors de la cérémonie de clôture, je reçois une notification sur Twitter. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Ce tweet disait « Le festival du cinéma asiatique est tout à fait remarquable cette année et je voulais juste dire à cette personne « Go fuck yourself ». Et comme on dit en Belgique, tu n'as pas toutes les frites dans le même sachet. Voilà.
Non, mais surtout le festival asiatique, faut quand même le rappeler, hein, que passer le prix d'interprétation masculine, le cinéma asiatique, son palmarès s'arrête là. Donc on peut pas vraiment dire que le festival de Cannes a mis en avant le cinéma asiatique plus qu'un autre. Il a peut-être mis en avant le cinéma blanc, mais ça c'est une autre question. Prix d'interprétation féminine, et ça aussi c'était une grosse, grosse surprise. Je pense que c'est le prix que personne n'avait vu venir. C'est la plus grosse surprise de la cérémonie de récompense.
Il suffisait de voir le visage de l'actrice elle-même qui n'en revenait pas. Hein.
Ah oui, non, mais il y a eu une espèce de blanc dans le public, l'actrice est tombée des nues, mais en l'occurrence, Quelle est cette actrice? C'est Merve Dizdar, l'actrice principale du film Les Herbes Sèches du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, qui avait, lui, remporté déjà une palme d'or pour Winter Sleep. Qu'est-ce qu'on en pense de la prestation de Merve Dizdar, pour ceux qui ont vu le film, ce qui, encore une fois, malheureusement, n'est pas mon cas? Eric?
Je suis le seul à l'avoir vu.
Je crois que tu es le seul. Ouais.
Bravo.
Personnellement, moi, dans mon palmarès, je le mettais pour le scénario. Mais vraiment, je comprends parfaitement. C'est particulièrement, je pense, physique d'être un comédien chez Ceylan. Donc, son film fait 3h20. Et on a de très, très longues séquences de dialogue qui sont extrêmement denses. Et notamment avec cette comédienne-là, qui incarne vraiment une figure de l'engagement et qui va provoquer son interlocuteur pour lui demander la raison pour laquelle il n'agit pas. Et c'est un rôle qui est vraiment très fort et c'est amplement mérité. J'avoue que moi non plus, je ne la voyais pas du tout dans cette catégorie-là, mais ça me paraît assez justifié et je suis personnellement extrêmement heureux que Ceylan soit dans le palmarès.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eh bien écoute, moi en tout cas je suis très heureux qu'une actrice qui était complètement inattendue puisse bénéficier d'une récompense aussi importante, et je pense que c'est le cas pour tout le monde autour de la table.
Mais ça me fait un peu le même effet, alors sans la notion politique très forte, de l'année dernière où c'est une actrice moins connue du grand public européen qui gagne un prix,
oui.
à l'instar d'une Nathalie Portman, d'une Julianne Moore, d'une Alicia Vikander, qui avait été un petit peu mise par les journalistes comme les favorites. Et là, c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment moins, quoi, autant pour le prix d'interprétation masculine. Vas-y, Eric.
Non, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde parlait de Sandra Hüller.
Oui,
parlé d'elle pendant toute la quinzaine. Quoi.
Mais il faut dire quand même qu'elle a été présente dans deux des films qui sont très très hauts dans le palmarès, à savoir donc Anatomie d'une chute et puis Zone of Interest. Et c'est vrai qu'elle est brillante dans les deux films et sur des registres radicalement différents. Donc on aurait même pu imaginer un prix d'interprétation pour deux films, ce qui était évidemment impensable. Mais c'est vrai que elle était dans toutes les...
Puis elle joue en trois langues, du coup.
Voilà, en plus, c'était incroyable.
On va monter d'un cran encore dans les récompenses, et là, on va commencer à atteindre le trio de tête, donc prix du jury, grand prix, palme d'or.
J'ai pas le piton qui remonte, là, genre...
On va commencer par le prix du jury, parce que celui-là, bon, c'était relativement attendu, même moi, je l'avais pronostiqué dans mon coin, mais j'en suis quand même ravi. Les Feuilles Mortes, nouveau long-métrage de Aki Kaurismäki, et en ce qui me concerne, le premier film de Kaurismäki que je découvre en salle. Nathanaël, t'en as pensé quoi, toi, des Feuilles Mortes? Est-ce que t'es content de cette récompense, déjà?
Je suis très content. Si ça tenait qu'à moi, je vais pas mentir, ça aurait été la palme, parce que Kaurismäki, c'est un cinéaste que j'affectionne beaucoup. Quand on parle de prolétariat, on pense souvent à Ken Loach, mais Kaurismäki, c'est le cinéaste du prolétariat. Si je peux faire un petit conseil, voyez La fille aux allumettes, qui est un véritable chef-d'œuvre. Mais revenons aux Feuilles Mortes, qui est... Beaucoup ont dit que Les Feuilles Mortes, c'était un énième Kaurismäki qui faisait du Kaurismäki. Je suis absolument pas d'accord. Certes, il y a une imagerie commune, cette teinte vintage très années 80, voire 70 parfois. Mais le cinéaste tranche vraiment avec ce qu'il a l'habitude de faire. C'est très drôle, bizarrement. On n'a pas l'habitude de voir Kaurismäki aussi drôle et aussi léger et aussi touchant. Moi, je l'aurais vu évidemment plus haut dans le palmarès, mais c'était difficile de donner un prix d'une telle importance à un film qui finalement est plutôt petit par sa durée, par son dispositif, mais dans mon cœur, il est au plus haut et il est immense.
Eric ?
Alors, moi, je suis assez d'accord pour dire que Kaurismäki fait à peu près toujours le même film, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce film n'appartient qu'à lui et voir un film de Kaurismäki, c'est vraiment des retrouvailles. On a quelque chose vraiment absolument typique. Et moi, j'ai particulièrement apprécié d'avoir un film dénué de cynisme. Et c'est quelque chose que... C'est aussi pour ça que le Festival de Cannes est vraiment une expérience forte, c'est qu'on voit des films dans des salles entre 1000 et 1500 places. Et elles sont évidemment toutes complètes, les séances. Et on entend, on ressent avec le public. Et là, on a vraiment eu des rires qui étaient des rires avec les personnages, qui étaient vraiment un partage d'empathie et de tendresse comme on en a rarement. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle moi, j'étais vraiment prêt à aller encore plus haut aussi pour ce film et aussi pour la carrière entière de Kaoris Maki, qui est vraiment un cinéaste majeur.
Et tu parles de la réaction du public, j'ai vu dans la séance officielle avec équipe, et bon, Kaoris Maki s'est vite éclipsé après la fin du film, mais donc la standing ovation s'est pas éternisée, mais c'était la plus intense de toutes celles que j'ai vues. Vraiment, il a été acclamé, les gens hurlaient son nom. Ça fait plusieurs fois que j'ai un Cannes et j'ai jamais vu ça pour un cinéaste.
Mais il jouit d'une grande popularité, Kaoris Maki, et c'est plutôt une très bonne nouvelle et une très touchante nouvelle que ce prix du jury, d'autant plus que ça a permis, vu qu'il n'était évidemment pas présent, ça a permis aux deux acteurs et actrices principaux et principales de venir récupérer le prix sur scène, dont le sosie finlandais de Bastien Bouillon.
Alors
c'est littéralement la vanne de toute la croisette, donc je peux...
Non mais oui,
vas-y, je t'en prie.
Non, c'est ce que j'allais dire, mais tant pis. Hein,
voilà, mais non mais vraiment.
Je suis un mouton.
Non mais il y a eu une espèce d'hallucination collective où tous ceux qui ont vu le Kaoris Maki sont sortis du film en se disant c'est très très bien, par contre je comprends pas ce que Bastien Bouillon est venu foutre là-dedans, mais le fait est que l'acteur principal lui ressemble.
Moi j'ai pensé
énormément
à Julien Doré quand je l'ai vu au début, donc
ça marche aussi
oui, effectivement, ouais.
Et oui, autant l'acteur ressemble à Bastien Bouillon, autant une chose que j'ai notée pendant tout le film, l'actrice, elle, ressemble beaucoup à Kati Utinen, qui est vraiment la muse de Kaoris Maki, qui a joué dans 11 de ses films. Et donc même dans le choix de l'actrice, on sent encore une fois l'amour de Kaoris Maki pour cette très grande actrice qui parcourt tout son cinéma depuis les débuts jusqu'à ses derniers en 2017 et 2011.
Bon allez, le suspense se réduit petit à petit. On attaque enfin le lauréat du Grand Prix, qui, à mon corps défendant, parce que je l'aurais bien vu rafler la récompense suprême, mais tant pis, est donc The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Est-ce qu'on est globalement satisfait de cette récompense? Le Grand Prix, c'est quand même pas rien à Cannes. Pour le grand public, hein, en général, la Palme d'Or a tendance à éclipser toutes les autres récompenses du palmarès, mais c'est quand même pas rien, le Grand Prix. Sophie?
Moi, non, je voulais juste dire qu'il avait la place que je lui attribuais dans mon cœur. Donc oui, le Grand Prix, donc je suis ravie. Parce que
le palmarès cette année est quand même satisfaisant pour toi.
Ah mais je suis ravie. En tout cas, mon top 3 est récompensé. Donc je suis très heureuse. C'est très surprenant qu'il ait pas la palme. C'est très très surprenant. Malgré mon opinion personnelle, je suis un petit peu étonnée parce qu'il a une résonance. En fait, c'est peut-être ça. Il a une résonance politique peut-être plus forte que le reste, mais il a peut-être une résonance politique plus subtile, que peut-être moins ancrée dans une actualité forte. Peut-être qu'en fait, il nous met juste, nous, spectateurs, face à la normalité du mal avec un grand M, et du fait qu'on est inactif et spectateur de cette espèce de scène mortuaire en fond et qu'on est complètement passif. Mais peut-être que c'est peut-être un peu moins évident que le reste de la compétition ou le reste des films qu'on a vus à Cannes cette année, qui sont peut-être un peu plus ancrés dans le présent.
Est-ce qu'on peut pas supposer, Eric, je me tourne plutôt vers toi, est-ce qu'on peut pas supposer que finalement le jury du Festival de Cannes a essayé de contourner le scénario le plus attendu, parce que ça fait quand même depuis sa première diffusion sur la croisette que tout le monde dit The Zone of Interest, ce sera la Palme d'Or. Et bien évidemment, c'est pas le cas.
Je rappelle d'ailleurs que lors de la conférence de presse, Ruben Östlund avait demandé à son jury un palmarès non consensuel. Il y a peut-être cette idée, effectivement, de ne pas être totalement attendu. Moi, ma palme personnelle, mais je savais très bien que ça n'arriverait pas, c'était le Kaoris Maki, mais pour moi, il était évident qu'il serait très haut. D'ailleurs, je me suis fait la remarque, parce que voilà, ça fait un certain nombre de cérémonies de clôture auxquelles j'assiste. Le suspense, on le sait, hein, toutes les équipes sont rappelées, et donc elles voient bien les prix défiler, et deux prix avant la fin, celui qui a le grand prix, c'est quand même toujours une forme de déception en se disant « Ah d'accord, en fait j'ai la médaille d'argent d'une certaine manière. » Et c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher d'y penser quand Jonathan Glazer est monté sur scène, en se disant « il a dû dire « bon, j'ai pas la palme ». Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ce film absolument incroyable. C'est un objet fascinant sur lequel justement il y a pléthore d'analyses à créer. Et je le reverrai avec un grand intérêt. Et c'est un objet vraiment majeur en termes de mise en scène et de questionnement du regard.
Mmh. Bah, de toute façon, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission de Zone of Interest, on s'est beaucoup étendu dessus. Nathanaël, tu voulais peut-être ajouter ta petite pierre à l'édifice.
Non, pas spécialement. Moi, je suis un peu resté en dehors du film. Évidemment,
c'est intéressant, du coup.
Oui, mais je trouve que son dispositif est vraiment passionnant. Sur le fond, ce qu'a à dire Glazer est passionnant, mais j'ai de gros problèmes formels avec le film qui est hyper mal aimable et qui n'est pas du tout fait pour le grand public, et c'est peut-être pour ça qu'il manque la palme. Le prix du jury, c'est toujours celui qui aurait pu avoir la palme, mais qui a peut-être un peu moins de chances de fonctionner en salle. Et c'est vrai que moi, je suis assez content qu'il ait pas eu la palme, parce que je me suis dit, ça va être encore une palme d'or que personne ne va voir et qui va être encensée par une toute petite niche et dont le grand public va totalement passer à côté.
Bah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même de fortes chances que Zone of Interest soit très très peu vu, du moins en salle, parce que c'est un film qui est aride et qui n'est pas facile d'accès. Mais justement, on a réglé son compte à 95% du palmarès. Il est temps d'atteindre la récompense suprême. Et là, je vais me tourner avant tout vers Sophie et vers Zara, parce que bah, vous l'aurez deviné, si vous vous êtes préservé du palmarès, autrement vous le savez déjà, donc il n'y a pas de suspense. C'est la réalisatrice française Justine Triet qui a obtenu la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute. Laquelle de vous deux veut commencer? Je pense effectivement que ça va être Sophie. Sophie,
franchement,
on en est à quel niveau de bonheur sur 10? 12?
Plus, okay. 18, 19. C'est-à-dire que moi, je ne consomme pas d'événements sportifs. Je ne regarde pas le foot, je ne regarde pas le rugby, je ne regarde pas le tennis, ni même le patinage artistique. Ce qui se rapproche le plus, normalement, c'est les compétitions de drague. Donc, autant dire que vraiment, mon niveau d'implication devant une télé est généralement assez faible. Là, vraiment, je vivais un moment... j'avais l'impression de vivre un truc historique. Et en effet, ça l'est parce que, bah, ça y est, Justine Triet est officiellement la troisième femme à recevoir une palme d'or. Et en fait, ça fait depuis qu'il est passé, depuis qu'il y a eu les premières projections d'Anatomie d'une chute, que je ne cesse de répéter à tout le monde que le film est politique, malgré ce qu'on dit. Notamment, c'est un débat qu'on a eu avec Alexis, ouais, sur la portée et sur le message du film, qui derrière une narration presque, et je trouve pas qu'elle soit classique, mais on va dire une histoire qui a l'air ancrée uniquement dans du narratif fictif, moi je le trouve vraiment très subtil sur ce que ça racontait. Je suis d'autant plus contente que le film, pour moi, est un énorme fuck au cas Johnny Depp Amber Heard et du fait qu'ils disent que de toute manière, quand t'as perdu un procès, tu l'as perdu, mais quand tu l'as gagné, au final, tu as perdu aussi, surtout quand t'es une femme. Parce qu'on va aller t'attaquer dans ton intimité, dans ce qui fait de toi une femme. On va aller t'attaquer sur, ici, ta bisexualité, le fait que tu ne sois pas une femme absolument parfaite dans ton couple et que ça fait de toi potentiellement un monstre. Et en fait... je suis ravie parce que Justine Triet, en plus d'avoir fait un film formidable, c'est une réalisatrice qui n'a cessé de progresser. On voit des gens qui ont des épiphanies, on voit des gens qui sont assez peu productifs mais qui d'un coup vont faire un chef-d'œuvre. Justine Triet, c'est une nana qui, depuis son premier film, est une battante. C'est-à-dire que La Bataille de Solferino, elle a fait une dérogation spéciale au CNC pour pouvoir tourner son film pendant l'entre-deux-tours. C'est une nana qui a une rage de cinéma. Elle l'a montré dans Victoria, en bouleversant complètement les codes de la féminité, et avec Sybille, en allant pareil, travailler une nouvelle forme de narration et une cinématographie, une cinéphilie encore plus large. Et là, avec Anatomie d'une chute, elle la mérite, sa palme d'or. Elle la mérite parce qu'elle a réussi à montrer qu'elle était capable à chaque fois de proposer encore plus de cinéma et de l'ancrer toujours dans son époque. C'est une vision féminine qu'on n'a pas d'autre en France. Mmh. Je vous parlais de mon amour pour Valérie Donzelli, pour Monia Chokri. C'est des cinéastes que je trouve toujours super on point, mais je trouve que celle qui a le mieux capté le féminin depuis très longtemps, c'est Justine Triet. Et dans chaque film, elle en montre une autre facette. Donc moi, ce prix, cette palme d'or, là où j'avais été super déçue pour Titane, que je trouvais au final assez peu impactant sur le regard qu'il offrait sur le monde, là, le Justine Triet, j'ai envie de dire, ça, c'est une palme d'or méritée, ça, c'est une palme d'or féminine, ça, c'est une palme d'or qui, en plus, dit quelque chose sur la société et particulièrement qui répond à ce qu'on a vécu à Cannes cette semaine. Et donc, je suis super émue, vraiment bouleversée. Et en plus, Justine Triet a représenté aussi quelque chose. Elle est venue, certes, très élégante, mais en t-shirt, très peu maquillée, en parlant de la réforme des retraites. On parle souvent des paillettes cannoises, mais moi, je pense que Justine Triet, c'est une nana qui se bat dans son cinéma, mais qui se bat aussi dans la vraie vie. Elle l'a toujours montré. Et donc, pour moi, c'est une palme d'or importante. Voilà.
Toi, Zara, je sens que t'as envie de rebondir, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est la troisième fois seulement de l'histoire du Festival de Cannes qu'une femme est palmée d'or, et en ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la deuxième fois, parce que la première, c'était Jane Campion pour La leçon de piano, ex aequo avec un homme. Donc bon, cette première palme d'or pour une femme...
Elle a pas une demi-palme, tu vois. C'est important aussi qu'on remette au sens ce... Oui, ex aequo, mais c'était pas une demi-palme.
Non, c'était deux quand même une palme. Non, c'était oui, vraiment deux palmes d'or, bien sûr. Mais il y avait quand même l'idée que la première femme palmée de l'histoire... était palmée en même temps qu'un homme, tu vois. Mmh. Et en fait, la première à être montée seule sur scène pour récupérer une seule et unique palme d'or, c'était Julia Ducournau, donc il y a maintenant 2 ans. Oui, 2 ans. Toi, Zara, cette palme d'or, elle t'évoque quoi? Et le discours de Justine Triet, qu'est-ce que ça provoque chez toi?
En fait, moi, ce qui me parle vachement dans son parcours et qui me touche, ben, donc, c'est une réalisatrice qui a fait du court-métrage, du documentaire. Mais moi, ce qui me parle, c'est vraiment son rapport à Cannes. Quand je parle de son rapport à Cannes, c'est qu'en fait, la bataille de Solferino était à l'acide. Et l'acide, c'est vraiment cette section de cinéastes un peu parallèle. Où, franchement, en vrai, dans l'industrie, quand tu es au marché du film, les gens ils font des blagues sur l'acide.
Bah pour caricaturer grossièrement, l'acide, c'est la partie underground du Festival de Cannes.
C'est ça. Mais à la fois, en fait, le comité de l'acide, c'est des gens qui défendent des films qui n'ont pas de distributeur. Donc, quand ils arrivent en fait, à Cannes, c'est aussi les mettre en avant pour qu'ils sortent en salle de cinéma. Donc, il y a une réelle importance en fait, à cette section et à l'équipe en fait, de l'acide qui soutient des films importants. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que donc 2013, elle, avec la bataille de Solferino, elle est à l'acide. Puis, elle est à la semaine, en 2016. Et puis, sélection officielle pour Sibylle en 2019. Et là, le fait qu'en 2023, la Ralph la palme, pour moi, en fait, il y a quelque chose de beau de l'ascension. En fait, Justine Triet, c'est vraiment un parcours d'ascension d'une réalisatrice qui a montré ses films. En fait, il y a comme une forme de diversité dans les endroits où son film a été montré, comme une diversité dans le cinéma qu'elle fait. Et voilà, c'est excited.
Daniel ?
Ouais, non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Zara. Pareil, les 3 premiers films de Justine Triet étaient des œuvres extrêmement prometteuses, mais à chaque fois, moi, je me disais, il me manque un petit quelque chose pour m'emporter totalement. Et là, c'est vrai qu'avec Anatomie d'une chute, c'est la première fois où je me dis, ah là, elle a atteint l'aboutissement de son cinéma, tout en racontant quelque chose qui tranche complètement avec ses 3 premiers films par ailleurs. Mais ouais, moi, j'y vois vraiment l'aboutissement de quelque chose et une carrière que je vais vraiment suivre avec attention maintenant qu'elle est enfin arrivée à son plein potentiel.
Bah moi, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent aussi le savent, moi j'ai des réserves sur le Triet que je reverrai parce que je pense que c'est pas dit que mes réserves puissent pas évoluer positivement. Toi Eric, je crois aussi que tu as quelques réserves sur le film de Triet.
Alors je suis vraiment ravi de cette palme d'or pour toutes les raisons qui ont été évoquées, je vous rejoins entièrement. C'est vrai que lorsque j'ai vu le film, il est brillamment interprété, il est brillamment écrit, la mise en scène est absolument fascinante. J'ai eu le tort de voir le procès Goldman de Cédric Kahn le premier jour,
ouais,
en quinzaine.
Ça a été mon cas aussi.
Et j'ai été vraiment ébloui par ce film qui est lui aussi un film de procès et qui est lui aussi un film très politique. Alors, évidemment, c'est pas très pertinent de faire cette comparaison-là. Il n'empêche que du point de vue du travail sur le regard, de la place de la caméra, de la question du point de vue, j'ai trouvé le film plus intéressant et j'ai trouvé celui de Triet un peu linéaire. Il y a quelque chose qui, justement, c'est tellement fin, en fait. C'est un peu complexe, mais le film de Triet est tellement bien interprété, tellement fin, que j'ai attendu pendant le film un sous-texte ou un renversement qui n'est pas arrivé. Et comme tu le dis, hein, le fait peut-être de le revoir va peut-être lui donner plus d'ampleur, parce que tout ce que tu disais, Sophie, je trouve est très juste sur cette question quand même politique et sur le féminin. Mais j'avoue que à la fin, c'était un film qui commence avec le procès et qui finit avec un verdict. Et il y a quelque chose qui m'a un peu frustré et qui, dans l'écriture, m'a semblé finalement peut-être un peu plus linéaire que ce à quoi je pouvais m'attendre, surtout pour un film qui s'annonçait comme un film de 2h30 et aussi ambitieux.
Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ah, oui,
non,
Sophie.
Non, c'est juste que je veux pas qu'on reste sur une note négative sur le trier.
Mais on peut pas rester sur une note négative. Le film a
on
eu la Palme d'Or.
Oui, mais justement, je voudrais juste qu'on finisse en disant qu'on est tous heureux pour elle, qu'on a ouvert une bouteille de champagne.
Et on est tous contre la réforme des retraites, même si ça me concerne pas,
ah oui,
c'est pas mon pays.
Ah non, mais tu fais bien de le soulever. J'ai failli oublier ça. Il faut qu'on parle du discours de Justine Triet, par contre. Mmh. Parce que c'est pas la première fois. Hein. Ça arrive environ 25 fois par édition, je pense, que des célébrités, des personnalités du cinéma viennent sur scène pour nous rappeler
surtout
que
au César, hein,
le cinéma, c'est important. Et effectivement, au César, on a régulièrement des espèces de petites opérations de communication politique un petit peu fumeuses. Là, moi, je vais vous faire part de mon ressenti. Outre le fait que j'étais, malgré tout, content pour Justine Triet et content que le film qui soit récompensé soit un bon film, parce que c'est le
ça
cas.
Ça récompense
un bon
aussi
film.
Un petit peu le travail d'Arthur Harari, qui a travaillé sur le procès Goldman, tout le monde est content.
C'est tout à fait juste.
Effectivement, bien sûr, et je pense que c'est un tandem de cinéma, Justine Triet et Arthur Harari, qu'il va falloir suivre de très près, hein, parce qu'à mon avis, ils en ont encore sous le coude. Mais j'ai été content pour elle, je ne m'attendais pas à un discours aussi limpide, aussi honnête, aussi sec, et surtout aussi pertinent,
puissant,
sur des problématiques qui touchent le cinéma actuel. Zara, qu'est-ce que tu as pensé de ce discours ?
Elle a parlé français, comme on dit. elle a vraiment parlé français. Je trouve que c'est super important. Franchement, en vrai, moi, j'avais quand même envie que la CGT éteigne les lumières. Bon, il y a eu cette rumeur et tout. Après, ils ont négocié, ils ont dit non et tout. Mais ça aurait été cool quand même. Un peu de calmer tout le monde. Enfin, moi, j'avais vu une belle pancarte à l'entrée d'une projection qui disait, en fait, regardez la misère sociale sur grand écran avec des tenues qui coûtent le SMIC. Et ouais, en fait, c'est vachement politique ce qui s'est passé de dire... Enfin, moi, je viens d'un pays où la retraite, elle est à 67 ans et on ne brûle pas des voitures, donc je ne comprends pas. Et donc, ouais, en fait, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas française, mais j'étais quand même contente que ce soit dit, qu'on ne fasse pas comme si de rien n'était. Il n'y a rien de plus violent, je pense, qu'omettre, se déconnecter, en fait, et dans un rapport de déconnexion, ce qui est quand même... très souvent le cas dans l'industrie du cinéma.
Oui, et je pense qu'elle a en effet parlé d'un truc dont tu as parlé au final avec la CID, etc., avec son parcours à elle, qui est qu'elle a clairement taclé, on ne va pas se mentir, elle a taclé Macron, hein, elle a taclé le gouvernement actuel, et elle a dit que le gouvernement est en train de faire mourir l'exception culturelle française.
Mmh. Tout à fait.
Et je pense, en fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans le Justine Triet, c'est que c'était... déjà, petit 1, alors que ça pourrait être faux, hein, mais elle avait l'air sincèrement surprise. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une minute presque de gêne, même pour nous spectateurs, de l'avoir perdue sur scène, de pas vraiment savoir ce qu'elle allait dire, d'être un peu, oui, j'ai écrit un discours, mais en même temps, je sais pas vraiment si je dois le faire, etc. Il y a eu un petit moment de pause, et après, une espèce de flamme qui s'est ranimée de, au fait, je suis là, donc vite, je vais m'exprimer, je vais dire ce que je pense, et j'ai l'impression qu'il y avait une vraie sincérité qui se dégageait de ça, et moi, c'est aussi pour ça que je l'aime, je trouve qu'elle est sincère dans tout ce qu'elle fait.
Mais je trouve que c'était aussi la même réaction, franchement, il faudrait revoir la rediffusion du réalisateur de la caméra d'or.
Oui.
Qui a vraiment fait ce mouvement de mouvement de tête vers le bas, genre en mode « Oh my God !» Et en fait, c'est ce qui est trop beau avec cette cérémonie ce soir, c'est que autant en termes d'interprétation que pour les prix, enfin la plupart des prix, c'est que il y a vraiment des talents qui sont nés. Alors ouais, on peut dire le Festival de Cannes, c'est snob, c'est terrible, c'est violent. Je suis pas en train de contredire ces informations, mais en tout cas, ça change la vie de personnes et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, moi, ça me bouleverse autant la caméra d'or ou le prix d'interprétation féminine. Tu sens qu'en fait, leur vie va plus être la même là à partir de maintenant.
Ouais, il y a quelque chose qui a switché, effectivement. Ouais. Et c'est normalement à ça que doivent servir les cérémonies de récompense, et pas forcément à l'autocongratulation du cinéma, chose qu'on voit quand même plus dans les cérémonies institutionnelles, type les Césars, qu'au Festival de Cannes. Je pense que c'est ainsi que va se clôturer notre panorama du palmarès du
Festival
de Cannes.
Ah ouais, Jane Fonda, par contre. Parlons de Jane Fonda, je suis désolée, mais...
Ok, Jane Fonda, vas-y. Tu as deux minutes pour me parler de Jane Fonda.
Jane Fonda qui fait la promo pour L'Oréal, mais
ouais,
qui parle de réalisatrice de court-métrage, donc je l'aime, parce que ça le valait bien.
Ouais, Maria, ce serait un autre débat pour une autre émission, mais je trouve qu'il y a une ambiguïté politique dans ce discours, il y a un truc... complexe. Même si je suis content que Jane Fonda soit venue remettre la Palme d'Or à Justine Triet.
On n'en a même pas parlé que Roger Corman était sur scène.
Et oui, Roger Corman est venu à 97 ans pour remettre le prix, le grand prix à Jonathan Glazer, ouais. Puisqu'il est venu accompagné de Quentin Tarantino sur scène. Avant, quand même, de faire un petit point avec Zara sur la dimension un peu plus économique et secrète du Festival de Cannes. Parce qu'on, oui, on va te brancher là-dessus, Zara. Il faut qu'on en parle un peu
pour
les gens qui nous écoutent. Je sais, c'est la petite surprise. Avant, ils ne sont pas avec nous physiquement, mais ils avaient quand même envie de s'exprimer. Donc voilà, en exclusivité pour vous et dans une qualité sonore probablement médiocre, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore reçu les messages vocaux, les avis de Nicolas, Simon et Arthur sur la compétition cannoise.
Arthur, t'es mon préf.
Moi, je suis un tout petit peu frustré de ce Cannes, mais du palmarès aussi. Non pas que je trouve que les primés soient pas forcément les bons selon moi, au contraire. Cette année, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de films de la compétition, je n'ai vu que la moitié. Et donc, c'est très frustrant quand on voit que le Wim Wenders, le Coris Mackie, le Kore-eda, tout ça, ce sont des films que moi, je n'ai pas vus, donc je suis très content pour eux. Le Shyamalan, pareil. Cela étant dit, moi, je ne peux pas me positionner là-dessus. Donc, c'est compliqué pour moi de juger, si ce n'est que ça fait quand même plaisir de voir qu'on n'a pas récompensé certains films plus problématiques que d'autres. En revanche, il était évident que mon top 3 étant Dodin Bouffant, le Zone of Interest et le Trier, même si je le trouve plus faible, il y a quand même des choses très intéressantes. De voir les trois récompensés de cette manière, c'est très intéressant, c'est très enrichissant pour le cinéma. J'ai eu un petit pincement quand j'ai vu que Glazer n'allait pas avoir la palme. Et en même temps, le message renvoyé de donner une palme d'or à Justine Triet 2 ans après Julia Ducournau. Et en même temps, le discours qu'a eu la cinéaste devant tout le monde et de voir un peu toutes les réactions des députés, des ministres face à ce propos-là, ça m'enchante beaucoup. Ça m'enchante même vraiment beaucoup. Donc c'est très surprenant comme sensation. J'aurais aimé en voir beaucoup plus. J'aurais aimé voir certains films récompensés. Je suis un peu triste pour le Todd Haynes et pour même la photo du Bellocchio. Enfin bref, avec Dessy, on refait toute l'histoire. Non, moi, je trouve que c'est au final un palmarès qui est juste, qui est malin, qui est au final assez généreux et pourtant qui ne va pas rajouter des prix de la 75e, des prix ex aequo, qui va cibler juste où il y a eu des vrais choix et des vrais choix intéressants et importants et politique, et qui veulent dire quelque chose, et c'était une belle édition, une édition où moi j'aurais aimé voir plus de films, mais au final je trouve que tout ce qui est souligné ici raconte bien ce qu'est le cinéma d'aujourd'hui et de demain.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors que dire de ce palmarès, si ce n'est que c'est un palmarès assez riche et puis dont on peut être globalement content parce qu'il récompense, pour ce qui me concerne en tout cas moi, certains des films qui m'ont le plus plu, pas forcément dans l'ordre dans lequel je leur ai souhaité ou désiré, mais en tout cas la plupart, si ce n'est tous les films sont là. Dodin Bouffant et le Jonathan Glazer sont des films qui figuraient dans le palmarès d'à peu près tout le monde et qui font partie des films les plus forts et les plus puissants de cette 76e édition. La Palme d'Or au film de Justine Triet, moi, sans partager l'enthousiasme et l'amour fou de Sophie, c'est un film qui m'a énormément plu et que je suis très très heureux de voir récompensé, notamment parce que une fois de plus, malheureusement pas assez, mais enfin c'est un film de femme, c'est un film fait, tourné, écrit par une femme, et ça se sent évidemment et dans l'écriture et dans la mise en scène, avec un personnage central qui, à mon avis, même si je trouve que le prix à l'actrice du Nourrici Bilge Ceylan est tout à fait mérité, je trouve que Sarah Euler est peut-être la seule vraie perdante de ce palmarès. Que dire de plus sur ce palmarès? Pas grand chose, si ce n'est que c'était une très belle édition. Et si, peut-être préciser quelque chose qui me réjouit particulièrement, c'est que les films problématiques ne sont pas représentés, et aucun d'entre eux. Et le discours d'ailleurs de Justine Triet était vraiment très important, comme celui de la réalisatrice hier de How to Have Sex à un certain regard, c'est de se dire que finalement, le jury a dit, on n'est pas d'accord avec cette vision passéiste, cette vision situations voilà, où il faudrait balayer MeToo. Et ben finalement, les comportements toxiques ont été exclus de la promotion. Et donc, c'est un petit camouflet quand même pour la sélection du festival. Et moi, je dois dire que ce petit camouflet m'est tout à fait sympathique. Voilà les amis, bonne dernière émission. Bon commentaire du palmarès. On se retrouve très vite pour revenir à des numéros classiques de Réaliser son trucage. Et puis n'oubliez pas, le 8 juin, l'enregistrement du l'épisode en public pour Hurlequin avec un film mystère. Ce sera à 19h30 le 8 juin au cinéma L'Hurlequin à Paris. Et j'espère que vous serez là nombreux. Bye les amis et gloire à la liberté.
Il était attendu, ce palmarès de la 76e édition du Festival de Cannes. Il était attendu et redouté. Redouté parce que le président du jury, Ruben Östlund, a pour le moins une personnalité marquée, surtout une personnalité clivante. Mais aussi parce que la plupart de ses jurés étaient, sinon jeunes en tout cas, d'une génération nouvelle d'artistes. Et qu'on pouvait donc se demander comment cette belle mauvaise troupe allait s'allier, discuter, choisir, trancher. Et bien au final, c'est peut-être un des palmarès les plus intéressants, les plus équilibrés et les plus généreux qu'on ait vus ces dernières années. Tout simplement parce qu'on retrouve en son sein la plupart, les films les plus évidents, les propositions les plus fortes du palmarès, avec notamment le film de Wim Wenders, avec évidemment le film de Nouri Bilge-Ceylan, Les Herbes Sèches, mais aussi avec des propositions aussi fortes que The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui avait électrisé à la croisette la plupart de la presse et en général des spectateurs qui avaient pu le découvrir. Et évidemment, à ses côtés, il y a forcément ce qui est moi mon coup de cœur absolu, à savoir la passion de d'Odin Bouffant, ce qui nous aura valu d'avoir enfin le si attendu « And the prize goes to the pot au feu ». Donc voilà, tout ça c'est très beau. Et puis, il y a Justine Triet en Palme d'Or. Et là, c'est quand même un sacré choix, parce qu'on se retrouve pour la 4e fois en 10 ou 13 ans une Palme d'Or française, pour la 2e fois en quelques années à peine, une Palme d'Or d'une cinéaste française et une cinéaste qui est ou qui a l'ambition d'aller utiliser des genres et des formes qui ne sont pas des formes de niche, qui sont des formes populaires ici, le polar, le thriller, le film de procès, et qui le font avec une modernité bienvenue et un regard contemporain, tout simplement. C'est un film qui, de la vie de la plupart de ceux qui l'ont découvert, arrive à l'heure. C'est d'autant plus important que, oui, une Palme d'Or qui, à la fois, apparaît comme pointue, apparaît comme de son temps et apparaît comme capable d'aiguiser la curiosité du public, bah, c'est un très beau choix. C'est un très beau choix, d'autant plus que Justine Triet propose ici son 4e long métrage. C'est donc une réalisatrice qui est au début de sa carrière et la Palme d'Or n'est jamais plus excitante que quand elle est une promesse de création future, quand elle se veut un électrochoc pour un ou une cinéaste encore en devenir. Et puis, ce qui ne gâte rien, on a eu un discours puissant, politique, mais aussi, j'ai envie de dire, très positif, très électrique de la palmée. Et bah voilà, tout ça, ça fait du bien. Alors bien sûr, moi j'ai quelques petits regrets. J'aurais voulu voir le Wes Anderson dans ce palmarès. J'aurais adoré retrouver Firebrand. Mais bon, que dire? Que dire sinon que c'est une belle proposition, qu'on retrouve des habitués, des anciens, de vieux maîtres, mais aussi plein, sinon de nouveaux venus en tout cas, de créateurs et de créatrices très intéressants, très excitants. Donc tout simplement, moi c'est un palmarès qui me semble pouvoir rendre fier le Festival de Cannes et qui nous rappelle, qui nous montre aussi que quand bien même la manifestation a parfois tendance à vouloir jouer un peu de la provocation, jouer un peu du scandale de manière qu'on a commenté au sein du podcast et qu'on a trouvé souvent très discutable, néanmoins le festival a aussi une capacité à regarder son époque, on va dire, avec les bonnes lunettes et à rassembler des artistes, à rassembler des créateurs, des acteurs de ce secteur qui ont envie de participer à son évolution. Et donc on se demandait bien ce qui allait arriver à ce Festival de Cannes, et franchement, non seulement ça aurait pu plus mal se terminer, mais c'était pas évident que ça se termine mieux. Donc voilà, c'est une bien belle édition qui se termine de fort jolie manière.
Zara, on va parler un peu avec toi de la dimension, comme je le disais, économique du Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes, c'est pas seulement un festival de cinéma avec des stars qui défilent sur un tapis rouge, c'est aussi une industrie, c'est un marché du film. Toi, t'étais venu ici, non pas comme nous, en tant que journaliste, pour chroniquer les films, mais t'étais venu ici vraiment pour travailler autour d'un film. Est-ce que tu peux nous parler?
Parce que nous, on a glandé de ouf, on va pas se mentir.
Par rapport à toi, je pense qu'on peut dire qu'on a glandé, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film-là que t'as accompagné, et surtout, de pourquoi le Festival de Cannes, et pourquoi ce genre de festival-là, ça a une importance qui n'est pas qu'une importance de représentation et de récompense?
Moi j'ai été appelée relativement récemment, donc pas pour le vendre, parce que donc, moi je fais de la vente, mais pour être ce qu'on appelle une festival exécutive, c'est accompagner une équipe de films toute la durée d'un festival autant au niveau du protocole que des plannings, que de faire manger les comédiens, les comédiennes. En fait, il y a des gens qui appellent ça Festival Angel. Ça, c'est quand tu t'occupes que en fait, des équipes. Mmh. Et en fait, des festivals exécutifs, c'est quand tu vas aussi dispatcher les places. Parce qu'en fait, quand tu apprends, en fait, tu as... Donc en fait, une équipe de film reçoit 178 places dans la salle de sa première.
Ok.
Voilà, ça c'est un fact. Et donc en fait, tu dois faire tout un dispatching de « bon, ces gens-là, ils ont filé de l'argent, donc tu dois quand même les placer, tu vois. Bon, il y a le casque, mais il y a une comédienne qui a ramené toute sa famille, tu vois, donc à un moment donné, il faut les placer. » Et donc, t'as tous ces moments-là qui, en fait, qui sont assez drôles parce que tu vois que... Pour une assistante réelle qui arrive et qui, ben voilà, elle n'est pas dans le budget, mais elle vient à ses frais parce que c'est un moment important, elle a bossé sur un film. Tu as en fait toutes tes équipes techniques, allant des régisseurs, aux monteurs, aux étalonneuses, enfin, c'est assez beau. Donc voilà, je dis ça en termes d'exemple. Hein. Je ne vous dis pas que c'était le cas pour le film sur lequel je bossais. Hein. Bon, voilà. Et en fait, le film, c'était Les Filles d'Olpha, qui est la palme de mon cœur. Et ce n'est pas parce que j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé dessus parce que c'est la palme de mon cœur.
Donc, Les Filles d'Olpha de Kauter Benhania, qui était donc en compétition officielle et qui malheureusement n'a pas eu de récompense ce soir. Nathanaël, tu voulais peut-être dire un truc sur les Filles d'Olpha parce que je t'ai vu réagir là-dessus.
Ouais, moi je l'aurais bien vu, prix du jury ou autre. C'est un documentaire d'une forme que moi personnellement je n'ai jamais vue. La réalisatrice mêle le travail de d'archives, le travail de documentation avec la famille dont il est question, donc de cette mère de famille Olpha, avec ses quatre filles dont deux ont disparu, et les deux qui ont disparu sont interprétées par des actrices, tout comme la mère lors des scènes entre guillemets difficiles, ce que dit la réalisatrice pendant le film. Donc il y a plein de strates qui se jouent dans ce long métrage là, et c'est vraiment passionnant. Moi je le dis une fois de plus, je n'ai jamais vu ça. C'est entre le documentaire, la fiction, la reconstitution, l'image d'archives, le reportage, enfin c'est d'une richesse immense. Et ouais, moi je suis un peu triste de pas le voir au palmarès.
Toi Zara, tu en penses quoi?
Il sort le 5 juillet en France, distribué par Jour de Fête, vendu par The Party Film Sales. Qui sont vraiment des gens gentils.
On aime bien les gens gentils.
Non, franchement, il y a trop de gens méchants dans cette industrie pour qu'on doive relever les gens gentils.
Ça fait écho au discours de Monia Chokri.
Exactement, la bienveillance, tu vois. Et d'ailleurs, c'est aussi les vendeurs et les distributeurs dont un film dont j'aimerais parler, d'une réalisatrice belge qui s'appelle Rosine Bacham, mais j'y reviendrai plus tard. Non, en fait, Les Filles d'Olpha... Ben, je dis pas ça parce que j'ai mangé des durums avec Olpha, ok. mais en fait... Moi, j'ai aimé le film sans rencontrer l'équipe. Et plus je rencontrais l'équipe, plus en fait, j'ai été vraiment bouleversée par Olpha qui, en fait, déjà, le début du film, c'est Olpha qui regarde la caméra et qui parle à Kauter et qui dit « En fait, si je comprends bien, c'est comme dans Rose de Titanic. Et en fait, je vous raconte mon histoire et vous allez la mettre en scène. » Et en fait, Kauter lui dit « Ben non, en fait, ce sera pas comme Rose dans Titanic. En fait, tu vas jouer, on va reconstituer des événements que tu as vécus. Mais ce qui sera trop douloureux, ce sera interprété par une comédienne qui est Hind Sabri, qui est vraiment une star dans le monde arabe. Genre une star, genre vraiment, vraiment. Et en fait, au-delà du fait qu'il y a plein de moments drôles, c'est vraiment bouleversant. Pour moi, ça m'a secouée dans le fait de faire même du cinéma, en fait, la mise en scène au cinéma. Ça questionne le voyeurisme. Tu te retrouves avec des comédiens qui regardent la caméra et qui disent « tu coupes ». Tu te retrouves avec des personnes du réel, donc les filles d'Olpha, qui veulent aller plus loin en disant « mais en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, donc j'ai envie qu'on le fasse comme ça ». Et Kauter Benhania, qui était aussi la réalisatrice de « La Belle et la Meute » et « L'homme qui a vendu sa peau », signe un film incroyable, je pense très important. Et moi, pourquoi, en fait, je suis très triste qu'il ne soit pas au palmarès? Bah déjà, Robin Osloon, t'es raciste. Voilà, c'est dit. Je m'en fous. Et ensuite, en fait, depuis 1970, il n'y avait pas eu de film tunisien en compétition au Festival de Cannes.
Ouais, ça faisait très, très, trop longtemps.
Mais c'est un film, c'est assez important. Et bon, voilà. Moi, je n'ai pas envie d'en dire plus. Je pense que Les Filles d'Olpha, c'est un film vraiment à découvrir en salle. C'est très beau. Il y a un travail de couleurs, de la colorimétrie, que le cinéma documentaire a aussi tendance à vraiment se diriger vers quelque chose de beaucoup plus brut. Mmh. Et là, on s'autorise la couleur et c'est vraiment beau. Elles sont belles, elles sont touchantes. Et voilà, moi, mon bémol, c'est que si le film avait eu un prix, peut-être que ça aurait changé... Ben, je ne vais pas vous raconter le film, mais ça aurait peut-être changé quelque chose politiquement pour les filles d'Olpha. Voilà.
Mais c'est bien de rappeler que les prix n'ont pas qu'un impact de réputation ou de fréquentation des salles, mais peuvent aussi avoir un impact sur l'industrie du cinéma. On en doutait quand même, hein, on était nombreux l'année dernière dans le camp de la presse à se dire, enfin pas l'année dernière, l'année d'avant, pardon, à se dire que bon, la Palme d'Or pour Titane, c'est bien, mais est-ce que ça aura un véritable impact systémique? Est-ce que ce n'est pas juste un écran de fumée? Difficile à dire. Le fait que 2 ans après seulement, il y a à nouveau une cinéaste, qui plus est une cinéaste française, qui soit récompensée par une Palme d'Or, et à mon sens une cinéaste bien plus engagée et bien plus politisée dans son cinéma et dans son image publique que Julia Ducournau, bah, laisse à penser qu'effectivement la Palme d'Or pour Julia Ducournau a fait bouger les lignes. Espérons que la Palme d'Or pour Justine Triet la fasse bouger autant. Et si vous avez l'occasion d'aller voir Les Filles d'Olpha, parce que je sais qu'il va passer, je parle aux Parisiens là surtout, et aux Parisiennes, je sais qu'il va passer en rattrapage au MK2 Bibliothèque dans les jours qui viennent, allez-y, puisque Zara vous conseille vivement d'y aller.
Et de façon systémique aussi, on est vraiment très très heureux et heureuse d'avoir des réalisatrices primées. Mais comme le dirait Alice Diop, c'est pas une mode, on est là pour rester, et c'est surtout aussi que si pour les femmes c'est compliqué, pour les femmes non blanches, on sent qu'en fait il y a un autre plafond de verre. Donc moi j'ai très hâte de voir une narration, une histoire portée par une femme racisée dans les années à venir. Voilà.
Et c'est ainsi que se termine ce 12e et dernier épisode de Réaliser sans trucage au Festival de Cannes 2023. Mais on va quand même pas se quitter comme ça, on n'est pas des rustres. Donc on va faire un petit tour de table et on va commencer par Sophie, pour faire le sens inverse de tout à l'heure, un petit coup de cœur personnel de ce Festival de Cannes. Tiens, Contrainte, un film non primé. Parce que sinon, c'est trop facile.
Ah bah, non, c'est facile. Parce qu'en
mais
fait...
pour toi, c'est facile. Oh, mais tu triches.
Mais en fait, je vous rabâche les oreilles avec le Monia Chokri depuis le début du festival. Donc en fait, c'est soit je vous parle du Monia Chokri, soit je vous parle du Thomas Cahier. Donc tant qu'à faire, autant parler de Monia Chokri. Parce que c'est une réalisatrice qui, comme Justine Triet, en fait, ont un parcours qui ne cesse de progresser et qui, de film en film, affirme de plus en plus une patte de réalisatrice, des thématiques qui leur sont proches et pousse en fait les potards de la narration dans des zones qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est parti vraiment de l'intime, comme Justine Triet avec la bataille de Solferino, on était vraiment sur un drame intimiste en quasiment huis clos. Et ben là, c'était pareil avec La femme de mon frère, qui était vraiment un tout petit film entre une relation presque toxique sur le manque d'amour et sur un rapport conflictuel sur la peur de l'abandon. Et ensuite, avec Babysitter, on était allé dans quelque chose de plus punk, de plus coloré, de sans doute plus rigolo. Et là, en fait, elle fait une comédie un peu trash par certains aspects, très sexuels, mais surtout elle va aussi augmenter la qualité de sa mise en scène, de sa direction d'acteur, de sa DA. Vraiment, c'est quelqu'un qui, vraiment comme Justine Triet, j'ai l'impression que y a une forme de confiance en soi et de possibilité qu'on offre aux réalisatrices pour s'exprimer. Mmh. Et en fait, ce que j'aime aussi avec Monia Chokri, c'est que pour le coup, son film n'est pas vraiment... il est politique, mais un petit peu... Alors, je vais pas dire de surface de manière péjorative, c'est-à-dire que elle va réussir à tordre les lieux communs pour dire un discours sur le monde, mais qui est en fait un discours assez intemporel. Elle va pas particulièrement ancrer son discours sur 2023. C'est compliqué de briser les codes
Les habitus bourdieusiens. Parce que pour moi, c'est son film, c'est ça.
mais c'est complètement ça. Et sauf que c'est quelque chose d'intemporel, et juste elle l'ancre dans le Québec actuel, mais en fait, c'est surtout une vraie comédie. Et je trouve qu'on n'a pas assez dit à quel point c'était difficile de faire une très très bonne comédie. Et je suis heureuse que ce film puisse aussi atteindre, comme le cinéma de genre, ses lettres de noblesse et puisse être reconnu à Cannes comme un vrai, vrai cinéma. Parce que pour moi, faire rire les gens et faire rire comme je l'ai vu dans la salle, c'est-à-dire une salle entière qui se tord de rire par rapport à Michel Sardou, moi je trouve que c'est du génie. Et donc je trouve que Monia Chokri, c'est une... Bah, comme elle l'a dit dans son discours, moi je trouve qu'elle c'est une génie parce que, en plus de faire un cinéma génial, ça a l'air d'être une personne géniale.
Eric, rapidement, un petit coup de cœur comme ça, hors film primé ce soir.
Alors j'ai évoqué tout à l'heure rapidement Le procès Goldman. Mmh. Pour moi, ça a vraiment été un petit choc du début de festival. Et j'aimerais parler dans la section Un certain regard du film Les colons de Felipe Galvez Aberlé. Que voilà, ça fait partie de ces petits films qu'on arrive à découvrir sans vraiment savoir à quoi s'attendre. C'est pas toujours payant, mais je me souviens avoir découvert l'année dernière vraiment avec admiration Godland, qui m'avait vraiment vraiment marqué. Là, on est sur une expérience un peu similaire. Le film n'est pas aussi bon, mais il y a vraiment quelque chose de très fort. On est dans la conquête des territoires en Patagonie, une histoire vraiment de la violence de la colonisation. Resserré sur trois personnages avec une narration assez atypique et un rythme de récit, une narratologie assez intelligente, surtout sur la fin. Et les acteurs sont très bons. C'est un film viscéral, les paysages sont incroyables. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, pour le moment, je ne sais même pas s'il est distribué, mais en tout cas, Les Colons de Felipe Galvez Aberlé, très très beau film.
Bah toi Zara, j'ai presque envie de te dire que c'est Les Filles d'Olpha, du coup, quelque part, ton coup de cœur pour un film non primé, mais est-ce que t'en as un deuxième quand même que t'as envie de soutenir?
En fait, je me sens ultra bloquée parce que là, j'ai envie de soutenir tous les Belges déjà qui étaient là, parce qu'en fait, nous, c'était incroyable pour nous, il y en avait cinq.
Vas-y, cinq films belges, très vite.
Donc,
vas-y.
Augur, Balogi, prix New Voice, Un Certain Regard, oui. Le gars est rappeur, il a été refusé 6 fois du Centre du Cinéma de la Fédération Wenny Bruxelles, qui est l'équivalent du CNC, donc 6 refus aujourd'hui là, Cannes, bim. Ensuite, j'ai envie de vraiment faire un énorme câlin à Paloma Sermondai, réalisatrice de Il pleut dans la maison, qui était à la semaine de la critique, qui avait eu le Magritte du meilleur film documentaire pour Petit Samedi, qui parle en fait de régions qui sont peu mises en avant, en tout cas peu bien mises en avant, la Wallonie des classes populaires, et qui est repartie avec un prix à la semaine de la critique. Et donc voilà, c'est un énorme coup de cœur. Et puis après, voilà, j'avais vraiment envie de faire une vraie déclaration d'amour à Rosine Bakam, qui est la première réalisatrice noire à être rentrée dans une école de cinéma en Belgique, une personne en fait qui nous a inspirés, qui était à la quinzaine pour la première fois de sa carrière avec Mambar Pierrette. C'est quelqu'un qui nous a ouvert la voie, c'est quelqu'un dont l'existence même nous fait du bien. Et voilà, Tantine Rosine, je t'aime. Voilà.
Nathanaël, toi, un petit coup de cœur hors film récompensé
Ouais, je pourrais parler de Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese, mais ce serait une évidence, donc je le laisserai de côté. Moi, je vais plutôt partir à Un Certain Regard, où j'ai découvert complètement par hasard un film iranien de Alireza Khatami et Ali Asghari qui s'appelle Terrestrial Verses. Le fond, c'est très important dans le cinéma, mais pour moi, c'est avant tout une histoire de forme. Et ce film-là a une forme radicale, j'avais jamais vu. Pour la faire courte, c'est un film très rapide de 1h15 en 10 segments, enfin 9 segments et un épilogue. Qui raconte la vie quotidienne à Téhéran de 9 personnalités filmées en plan fixe lors d'une discussion avec un interlocuteur qui restera anonyme pendant tout le long de ce segment, et qui le film suit des personnages d'un âge qui va de la naissance à la mort, et qui suit à peu près toute la durée de la vie d'un Téhéranais moyen, pour montrer avec ces 9 situations différentes à quel point la liberté est une chose qui n'existe pas en Iran. Ouais. Et que dans toutes les situations, que ce soit donner un nom à un enfant qui vient de naître, faire un film, exercer son métier, avoir un diplôme, décrocher un entretien d'embauche, toutes ces situations du quotidien que tout le monde a vécu sont dans de certaines circonstances pas dépendante du gouvernement iranien et de ses choix et de ses très nombreuses restrictions. C'est un film qui m'a bluffé et que je conseille à tout le monde. Je crois qu'il est déjà daté, il me semble que c'est pour septembre.
Ok, écoutez, moi je vais vous recommander la série de Sam Levinson, The Idol. Non, c'est pas vrai du tout. Non, moi je vais faire une petite reco pour un film que je trouve qui est passé en tout début de festival, puisque de mémoire c'était le
retour de Catherine Corsini.
Le deuxième jour. Non, c'est pas le retour non plus.
Jeanne du Barry de Maïwenn.
Arrêtez, stop.
L'été dernier de Breya.
C'est à la fin.
Disciplinez-vous un peu, on a bientôt fini. Le film dont je veux parler est un film qui est passé en séance spéciale à Cannes et qui est passé vraiment au tout début, que je trouve franchement loin d'être parfait, mais qui reste malgré tout, d'un point de vue strictement esthétique, la séance la plus dingue que j'ai faite cette année à Cannes. C'était le documentaire de Wim Wenders, Anselm, le bruit du temps, qui a la particularité d'être tourné en 3D et qui est pour le coup vraiment esthétiquement un gros gros morceau de cinéma. Donc si jamais un jour il passe pas loin de chez vous, de préférence en 3D, parce que je pense qu'en 2D, ça n'a aucun intérêt. Foncez voir Anselm, c'est une expérience esthétique, encore une fois, pas parfaite, parfois un peu brouillonne, mais à plein d'endroits saisissante. Eric, tu voulais peut-être rajouter un truc.
Juste deux secondes pour dire que, justement, en reparlant des filles d'Olpha, je suis vraiment heureux d'avoir revu le documentaire arrivé en compétition. Et,
oui.
Et c'était bien vraiment sûr. Quelque chose d'important. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le Wang Bing que j'ai découvert, parce que c'est un cinéaste documentariste dont j'entends parler depuis très longtemps. Je ne me suis pas encore penché sur son film parce que chez lui, un film, c'est 9 heures. Là, on a eu un court-métrage, hein, 3h30. et j'ai honnêtement, j'ai vécu une expérience assez singulière. J'ai énormément aimé ce film. Et c'est vrai que le retour, tu m'y as fait penser en parlant de Wim Wenders, mais le retour du documentaire en compétition, j'espère que c'est quelque chose qui sera pérenne parce que je trouve ça extrêmement intéressant.
Eh ben, je pense qu'on peut... Vas-y, Zara.
Bah, en fait, c'est ça le problème avec les personnes racisées. En fait, elles n'ont pas souvent la parole. Donc, le long, tu vois, c'est...
Oui, mais il y a un moment où j'ai un chronomètre, moi.
Non, je voulais faire sur le long et sur le court. J'ai envie de soutenir la réalisatrice du film Banel et Adama de Ramata Toulaïsi, que j'ai découvert avec un court-métrage à Clermont-Ferrand qui s'appelait Astel et que je suis super heureuse de redécouvrir ici en sélection à Cannes. C'est son premier long et on l'a balancé avec tous les requins là. Donc vraiment, c'est génial et c'est incroyable qu'elle soit là et je souhaite vraiment que le meilleur pour son film. Et un petit... big up à Boléro, qui a eu la Queer Palm du court-métrage, qui a eu des prix à la semaine, qui est un court-métrage de Nance Laborde Jourda, et que j'avais découvert aussi à Clermont-Ferrand avec Léo et la nuit. Donc c'est merveilleux, toutes ces personnes qu'on va encore revoir. Merci beaucoup de m'avoir laissé continuer.
Mais je
Alexis.
T'en prie, Nathanaël, pour conclure.
Oui, pour conclure, c'est bien de parler des bons films, mais je tiens quand même à préciser que Hypnotique de Robert Rodriguez est certainement le pire film de l'année.
Et le fait qu'il soit la dernière séance de minuit de Cannes, c'est quand même un peu drôle. Et je pense qu'on reparlera certainement de Hypnotique dans cette émission, plus tard, ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est ainsi que se termine en très chouette compagnie ce tunnel cannois, voilà, comme l'a baptisé Nicolas.
D'ailleurs, si vous voulez remplacer les anciens chroniqueurs par les nouveaux, dites-le sur nos réseaux sociaux.
Non, ne le dites pas, ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, merci à nos invités d'un soir et peut-être de plusieurs soirs, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Merci Nathanaël.
Merci à vous.
Merci Zara.
Merci contre la réforme des retraites et merci les invisibles du Festival de Cannes. Voilà.
Ouais, tu as bien raison. Merci à tous les invisibles du Festival de Cannes qui se reconnaîtront et qui peut-être pour certains nous écoutent. Merci Eric.
Merci, ce fut un plaisir.
Et merci Sophie.
Elle a gagné Justine, elle a gagné!
Le Festival de Cannes 2023, c'est terminé. Maintenant, on va se reposer parce que oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de Réalisation Trucage. On va faire une petite pause bien mérité, mais on se retrouve la semaine d'après pour rattaquer les films de l'actualité et surtout, rendez-vous, ça on en a peu parlé mais je vous le répète, rendez-vous le 8 juin à Paris au cinéma Le Harlequin pour le dernier épisode du Ciné-Club Le Hurlequin animé par Nicolas Martin et pour l'occasion, toute l'équipe de Réalisation de Trucage revient présenter un film surprise et on enregistrera un épisode sur ce film-là dans la salle, donc vous pourrez venir nous poser vos questions, rendez-vous donc le 8 juin. En attendant, bye les amis. Et gloire à la liberté.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.